RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Avec nous ce soir, Manon Aubry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et vous êtes co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. On va évidemment parler très largement de l'actualité politique qui est très dense 48 heures après le second tour de l'élection présidentielle. Mais je voudrais que nous commencions par l'actualité internationale et la guerre en Ukraine, puisque le ministre russe des Affaires étrangères a mis aujourd'hui en garde contre le risque bien réel, a-t-il dit, en insistant sur ce bien réel, risque d'une troisième guerre mondiale. Une quarantaine de pays participent aujourd'hui en Allemagne à une réunion à l'initiative des États-Unis sur les moyens de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que nous ne sommes pas en train de jouer un jeu de plus en plus dangereux ?
C'est vrai qu'il y a un risque d'escalade dangereux, puisque au début, vous envoyez des armes défensives qui se transforment en armes offensives, et puis peu à peu, vous devenez co-belligérant dans un conflit qui risque de s'envenimer. Je crois que c'est surtout, d'abord et avant tout, l'échec d'une stratégie qui visait initialement à mettre une pression tellement importante sur Vladimir Poutine qu'elle aurait pu et dû le faire céder. Nous avions proposé d'aller plus loin dans une partie des sanctions économiques, notamment à l'égard des oligarques. Vous vous souvenez, ça a été un peu à la mode, puis après on l'a vite oublié. On a parlé de la saisie des avoirs des oligarques russes.
En réalité, il y en a très peu. Des paquets de sanctions successives.
Il y en a eu des paquets, mais le fait est qu'elles ont été insuffisantes pour arriver à leur fin, c'est-à-dire dissuader Vladimir Poutine de continuer à commettre ses exactions en Ukraine et finalement la guerre a continué même si Vladimir Poutine a changé de stratégie militaire en se reconcentrant sur certaines zones d'Ukraine. Le fait est que la stratégie qui avait été adoptée par l'Union européenne et les Occidentaux de faire pression sur Vladimir Poutine n'a pas été suffisante.
Quand Vladimir Poutine disait il y a quelques jours les sanctions qui ont été prises contre nous finalement ne nous font pas tant de mal que ça, en revanche elles pénalisent très largement les pays qui ont décidé de nous les infliger. Est-ce que vous pensez que c'est de la posture ou est-ce qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit ?
Il y a évidemment une partie de posture de la part de Vladimir Poutine qui joue un jeu de dupe et qui dit « Ah, bien fait, vous voyez, vous êtes condamné vous-même et ça ne m'a pas touché ». Évidemment que ces sanctions l'ont touché, mais je le redis, pas suffisamment. Quand aujourd'hui, une partie du régime russe est soutenue financièrement par des oligarques qui détiennent des millions d'euros ou encore plus en roubles, d'avoir et qui sont dissimulés dans des paradis fiscaux et que la Commission européenne est incapable de dire à ses propres États membres, je ne parle même pas des paradis fiscaux en dehors de l'Union européenne, à ses propres États membres, comme Malte, qui est le premier pays d'enregistrement de complaisance, des pavillons de complaisance, donc notamment des yachts, et la Commission européenne est incapable de leur dire « Écoutez, Malte, maintenant, l'affaire est sérieuse, vous nous donnez une liste des avoirs détenus par les oligarques russes chez vous, et on les saisit immédiatement. Rien de tout ça n'a été fait. Et je pense que cette opacité organisée par les paradis fiscaux participe de cette impunité dont jouissent alors actuellement ces oligarques qui financent en partie la guerre.
Pour en revenir à ce que j'évoquais au début, la fourniture d'armes à l'Ukraine. La France, par exemple, a décidé ces derniers jours de fournir des canons à l'Ukraine, donc des armes qu'on peut considérer comme offensives. Est-ce que ça vous paraît une stratégie pertinente ?
De nouveau, c'est une situation qui est compliquée. Alors, quand on n'est pas au gouvernement, on n'a aussi pas toutes les informations d'un point de vue militaire que possède le gouvernement. Nous, on a toujours été plutôt hostile ou réticent à l'envoi d'armes parce que c'est un risque de faire escalader le conflit. Ensuite, Vladimir Poutine va répliquer encore plus fort et ensuite, on va aller quoi ? Vers une guerre nucléaire quand on est face à un État comme la Russie qui possède l'arme nucléaire. Donc, autant que faire se peut, il faut éviter d'en avoir à passer par là. Maintenant, comme je vous le dis, on n'a pas toutes les informations militaires qui nous permettent d'avoir une information et une décision suffisamment informée.
Cette notion que vous avez évoquée de co-belligérance, on en entend parler, c'est un mot qui est apparu dans le débat politique depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais enfin, où place-t-on la frontière de la co-belligérance ? On a l'impression que finalement tout ça est très élastique.
Vous avez raison, c'est très compliqué, notamment quand on nous expliquait au début que la France envoyait seulement des armes de défense. Bon, déjà, pour moi, il y a une forme d'antinomie. Vous parlez d'armes et de défense, c'est un peu compliqué de comprendre. Et sans être une spécialiste militaire, j'entends quand même qu'il est difficile de tracer une stricte ligne rouge entre des armes de défense et des armes offensives. Et le fait est que, de toute façon, cette ligne a très rapidement été passée par la France. Et je constate de ce point de vue-là qu'Emmanuel Macron a aussi échoué. Il a mis en scène des grands rendez-vous autour d'une table avec Vladimir Poutine. Mais le fait est qu'à la fin, ça a eu que très peu d'influence sur l'activité et l'offensive militaire de Vladimir Poutine.
Venons-en donc à la politique. On l'a presque oublié finalement, mais il y avait quand même une élection présidentielle avant-hier. Et dimanche soir, après la victoire d'Emmanuel Macron, tout le monde se tournait déjà vers les législatives, enfin, tous les responsables politiques. Jean-Luc Mélenchon lui avait pris de l'avance. Puisque une dizaine de jours déjà avant le premier tour, il avait appelé les Français à l'élire Premier ministre lors du troisième tour. On comprend bien finalement cette espèce de raccourci institutionnel qu'il a voulu faire. Mais on y reviendra d'ailleurs sur ce point. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce scénario soit crédible ?
Parce que la situation politique dans notre pays n'a jamais été celle que nous connaissons depuis l'issue du premier tour, à savoir un morcellement du paysage politique en trois blocs de taille équivalente. Si vous regardez, vous avez l'extrême droite raciste menée par Marine Le Pen, vous avez ensuite un bloc libéral mené par Emmanuel Macron, et vous avez un bloc que nous on appelle un bloc populaire ou de gauche, qui est mené par Jean-Luc Mélenchon. Ces trois blocs sont vraiment de taille équivalente à 100 000 voix près à l'issue du premier tour. Et donc notre pays n'a non seulement jamais été aussi morcelé, mais en plus il y a une forme de désinsatisfaction, d'insatisfaction plutôt, de la part d'une immense majorité des Français qui ne voulaient pas de ce second tour Macron-Le Pen. Une écrasante majorité des Français, je crois que c'est les deux tiers, qui souhaitent une cohabitation, plus de la moitié qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Donc on sent bien que finalement ces élections présidentielles, et c'est peut-être aussi un des problèmes de la Ve République, n'ont pas réussi à trancher les débats essentiels de notre société. Et c'est pour ça que les élections législatives peuvent jouer un rôle à rétablir ce déséquilibre institutionnel que nous connaissons à l'heure actuelle.
Un sondage Ipsos qui a été publié juste après la victoire du président sortant indique que 56% des personnes interrogées souhaitent qu'Emmanuel Macron, en effet, perde les élections législatives et donc soit contraint à une cohabitation. Mais un autre sondage, Harris Interactive, prévoit, lui, une majorité absolue très nette, très franche pour la majorité présidentielle. Je vous donne les chiffres. La République En Marche et ses alliés entre 328 à 368 sièges. Le Rassemblement National progresserait très fortement, selon cette enquête, de 75 à 105 sièges. Les Républicains et leurs alliés auraient entre 35 et 65. Vous-même, la France Insoumise, vous progresseriez assez nettement avec une fourchette comprise entre 25 et 45 sièges, le PS 20 à 40, le PCF 5 à 5 sièges, et Europe Écologie Les Verts auraient entre 1 et 5 sièges. Finalement, c'est un peu comme ce second tour Macron-Le Pen, dont on nous a dit pendant des mois que les Français n'en voulaient pas, et qui s'est tout de même produit. Comment vous expliquez ces paradoxes ?
Alors, ces projections en termes de sièges sont un petit peu compliquées parce qu'en réalité, les élections législatives, ce sont 577 élections. Ce qui est intéressant dans ce même sondage interactif, c'est de regarder bloc par bloc les résultats. Et ce que dit ce même sondage, c'est que le premier bloc qui arrive en tête est bien ce bloc de gauche et populaire à 36%. Derrière, de mémoire, suit le bloc La République En Marche, auquel vous pouvez ajouter Les Républicains, et le bloc Rassemblement National. Et donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je déduis de ce sondage, c'est qu'il y a une possibilité de créer une majorité autour de l'Union populaire si on est capable ensuite de le matérialiser dans les circonscriptions. Et c'est bien tout le sens de la stratégie qui est la nôtre d'élargir l'Union populaire pour faire campagne ensemble sur un projet commun de gouvernement, et j'insiste, de gouvernement, pour être prêt à gouverner le pays, à trouver des solutions directes et à avoir un Premier ministre en commun, Jean-Luc Mélenchon, et puis avoir une bannière commune sur l'ensemble des 577 circonscriptions. C'est en tout cas ce à quoi on se prépare et ce sur quoi on est en train de travailler actuellement.
J'évoquais tout à l'heure cette espèce de raccourci institutionnel dans cette formule qu'a employé Jean-Luc Mélenchon. Certains voient dans cet appel à l'élire donc Premier ministre lors du troisième tour de l'élection présidentielle une espèce de dévoiement des institutions qui, rappelons-le, ne prévoient ni de deuxième ni de troisième tour dans une présidentielle, ni l'élection du Premier ministre. Est-ce que vous l'assumez totalement ?
Vous savez, depuis
oui, vous,
toujours,
de toute façon, la Ve République, vous voulez fermer
non,
la page.
Ça, évidemment, ouais. Qu'avec nous, si on avait été élu président de la République et qu'on avait mis en place une Ve République, évidemment que ça se passerait différemment. Mais le fait est que les élections législatives, et je pense que c'est important de le rappeler, que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, de la majorité à l'Assemblée nationale, se dégage un gouvernement. Mmh. Donc Emmanuel Macron devra nommer un Premier ministre qui est issu de cette majorité. Et la différence par rapport aux précédentes élections, c'est précisément ce paysage morcelé dont je parlais, et le fait est que la Ve République a du mal à trancher un paysage qui est multiple et qui n'est plus en deux blocs, mais en l'espèce en trois blocs. Et donc, si le 12 et le 19 juin prochain, pour les élections législatives, on a une majorité du bloc populaire, oui, c'est possible d'avoir le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Mais... Et je le dis, pourquoi aussi on parle de troisième tour? Mettez-vous à la place. Et
non, mais l'expression, l'expression est habile.
Et puis, je suis sûr, il y en a plein qui nous regardent. Mettez-vous à la place de tous ces électeurs, de Jean-Luc Mélenchon et de gauche. À l'issue du premier tour, et qui ont dû, le deuxième tour, choisir entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, voire l'abstention. C'était dur quand on a un électeur de gauche, on s'est senti orphelin.
Avec des reports de voix finalement d'ailleurs beaucoup plus importants que prévu en faveur d'Emmanuel Macron.
Mais parce que les gens sont responsables et qu'ils ont peur de l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs la démonstration que Emmanuel Macron a été élu par défaut. C'est pas un vote d'enthousiasme, c'est pas un vote d'adhésion à son projet pour la retraite à 65 ans. Donc vous voyez, à ce peuple de gauche-là qui est un peu orphelin, bah, on lui dit on est en train de vous reconstruire une famille et que cette famille, si elle se mobilise et si elle se rassemble, alors ce sera possible d'emporter les élections
législatives. Mais cette famille de la gauche que vous voulez réunir aujourd'hui, hormis Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que pèse la gauche?
Eh bien, on le voit.
Non, mais si on reprend les scores à la présidentielle, il faut rappeler...
Bien sûr, et
vous Anne Hidalgo, 1,75%, Yannick Jadot, 4,6 ou 4,63, je ne sais plus. Ben, c'est dérisoire.
Bien sûr.
Vous allez réunir un bloc, mais finalement, l'essentiel de la force, c'est vous.
Bien sûr.
Et le reste, c'est un petit peu des miettes.
C'est pour ça que nous voulons élargir le bloc sur la base de ce qui a eu du succès à l'élection présidentielle, c'est-à-dire la candidature de Jean-Luc Mélenchon, une stratégie de l'Union populaire et surtout un programme. Un programme, l'avenir en commun, qui est, que vous soyez d'accord ou pas, qui est complet et qui opère les transformations indispensables à notre sens pour faire face aux enjeux de notre temps, les inégalités, l'urgence climatique, la crise démocratique que vit encore notre pays avec un taux d'abstention si fort. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que notre stratégie est de construire autour de ce qui a marché et d'élargir encore l'Union populaire aux gens. Vous savez, j'ai croisé plein de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en se disant « Ok, bah, je vais le faire, il est en tête, le programme me parle », et qui n'étaient pas forcément des militants. Et au soir du premier tour, ils se sont dit « Ah ouais, on est, non seulement on n'est pas passé loin, mais il y a un truc qui s'est passé, hein, une vague d'espoir, d'enthousiasme, et qui se sont dit « Eh bien, on va se mettre à militer ». Résultat, la semaine après les élections, c'est la semaine où on a eu le plus d'arrivée de militants de toute la campagne présidentielle. C'est bien un signe qu'il y a quelque chose qui s'est levé. Maintenant, il faut continuer à le construire ensemble pour que ça se matérialise pour les législatives.
Alors, il y en a à gauche qui veulent bien de l'union, d'une forme de coalition pour ces législatives, mais qui ne veulent pas se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que dit, par exemple, le candidat des écologistes, Yannick Jadot, qu'on écoute tout de suite.
Mais ça ne marchera pas, je vais vous dire.
C'est lui le chef, là, non?
Non. Si on veut gagner ces élections législatives, si au moins on veut avoir beaucoup, beaucoup de députés, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition. Parce qu'il va falloir ajouter les électorats les uns aux autres. Et donc, c'est dans le respect de la diversité, dans le respect des identités, qu'on gagnera.
Yannick Jadot, donc je rappelle, 4,63%, est-il encore aujourd'hui chez les Verts l'interlocuteur privilégié pour discuter de cette union de la gauche, de cette union populaire?
Je crois que manifestement, ils ne se parlent pas beaucoup entre eux chez les Verts. Ce que j'ai écouté, l'intervention et l'interview de Yannick Jadot dans son intégralité ce matin, et à tout point, quasiment tous les points qu'il a évoqués. Je prends par exemple l'idée de la désobéissance européenne, le fait d'avoir une stratégie commune, le fait de se regrouper autour du mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Sur tous ces points-là, il a dit l'exact inverse de ce que nous disent les écologistes actuellement dans les négociations. Donc, si vous voulez, notre rôle à l'Union populaire, c'est pas de trancher les débats du congrès de LV. C'est d'essayer de créer un bloc qui peut gagner, qui peut l'emporter, qui peut soulever de l'enthousiasme. Et franchement, quand j'entends tout ça, je me dis, c'est vraiment, vraiment pas à la hauteur. Et il a une responsabilité, Yannick Jadot. C'était le candidat des écologistes. Comment se fait-il qu'il est à ce point déconnecté, y compris de l'envie des électeurs, de ceux qui ont voté pour lui ?
Vous discutez actuellement avec les écologistes, oui. Mais pas avec Yannick Jadot. Donc avec qui ? Avec Julien Bayou.
Julien Bayou, ouais. Notamment.
Ça avance bien ?
Ça avance. On discute sur trois choses, pour être très précise. D'abord, sur un programme commun, parce qu'il s'agit là de construire un programme de gouvernement. Donc, ce n'est pas un truc électoraliste avec juste cinq marqueurs
politiques.
Donc, ça ne
sera pas l'avenir en commun. Ça sera l'avenir en commun amendé.
Ce sera l'avenir en commun avec les écologistes. Mais ça part de ce qui fait le succès de l'élection présidentielle, donc de l'avenir en commun. De ce point de vue-là, j'ai noté aussi des avancées intéressantes de la part d'Europe Écologie vers la nécessité de désobéir à certaines règles européennes pour être à la hauteur, par exemple, de nos ambitions écologiques. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils avaient dit dans la campagne. Donc, on discute d'un programme complet, on discute d'une stratégie commune, donc d'avoir une bannière commune sous laquelle nous nous présenterions dans l'ensemble des circonscriptions en commun, et puis, évidemment, d'une répartition des circonscriptions. Et je souhaite que, sur ces trois points-là, nous puissions aboutir, et ces trois points soient indissociables les uns des autres. Et l'ambition qui est la nôtre, ce n'est pas de faire un vague accord électoriste. Non, c'est de faire un accord qui est sur un projet de gouvernement et qui donne envie aux gens et qui se disent « Oui, avec ça, ça peut changer ma vie. Je peux avoir la retraite à 60 ans. Les prix des produits de première nécessité peuvent être bloqués. » Et je crois que ça peut créer une dynamique forte. Mais moi, je m'en voudrais que pour deux ou trois circos, tout le truc capote sur des raisons électoralistes vraiment nuls et qui, je crois, ne sont pas à la hauteur des...
Un petit mot. Est-ce que vous pouvez me dire si, oui ou non, Taha Bouaf, le militant LFI, journaliste, qui a été condamné en septembre dernier pour avoir traité une syndicaliste policière d'arabe de service, sera effectivement candidat aux législatives sous l'étiquette de la France insoumise.
Dans le contexte des discussions qu'on est en train d'avoir aujourd'hui avec nos partenaires, aucune investiture n'est faite pour les législatives. Ouais. Donc,
mais est-ce que ce point-là, dans son dossier, pourrait être un élément qui jouerait en sa défaveur ?
Vous pourrez trouver de toute façon, chez les uns et chez les autres, de tous bords, des éléments en la défaveur. Là, franchement...
Oui, enfin, il y a plus ou... Vous avez parlé tout à l'heure du bloc raciste de Marine Le Pen. Là, en l'occurrence, c'est un propos qui a été considéré comme...
Je pense que nous n'avons absolument pas à rougir de l'ensemble de nos candidats, mais laissez-nous d'abord faire le travail sur ce qui compte essentiellement, c'est-à-dire un projet commun, c'est-à-dire une stratégie commune et surtout une envie de gagner en commun. Et ça, je pense que ça fait du bien de redonner un peu d'espoir à des gens qui ont eu un peu la gueule de bois après le second tour.
Merci Manon Aubry, merci d'avoir été avec nous ce soir sur RFI et France 24. Et c'est immédiatement la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui l'a réalisée, ainsi qu'à Camille Nérand et Flore Simon qui ont participé à son élaboration. Merci, bonsoir.